nous sommes réunis ce soir pour parler des sorties des deux anthologies. La première, Chasseurs de fantasmes chez Griffe Banque. La deuxième, 69 chez ActuSF. Et nous avons un joli plateau. Alors, je vais commencer tout au bout, je ne vais pas commencer par les filles pour une fois. Nous avons Ariel qui est en train d'envoyer des textos. même pas, voilà, j'ai été mauvaise langue. Ariel qui a fait la couverture et qui fait plein de couvertures pour Griffe Banque, qui est illustrateur et qui a fait un petit journal satirique aux Utopiales, dont je suis incapable de prononcer le nom, mais...
Showy World News.
Showy World News. Yeah, ok. Voilà, c'est lui. Juste à côté, nous avons Charlotte Voltaire. Charlotte Voltaire, donc éditrice chez Mnemos, éditrice chez ActuSF. Donc voilà, et qui est en grande partie responsable de cette chose-là, 69. Donc voilà, juste à côté, pas cette chose-là. Enfin, voilà, c'est pas vivant non plus. Hein. Juste à côté. Thibaut, il y a un rapprochement là-bas. Nous avons juste à côté Christian Villa. Donc on va citer juste les mystères de Saint-Pétersbourg. Et il a la grande alliance à paraître bientôt en janvier.
Ouais.
Chez Mnemos.
Chez Margot.
Chez Margot.
Ah, ça va
pas. Pareil, ça commence pareil. Donc voilà, juste à côté, Jeanne Debat. Eden en sursis, de il a...
De Bats.
Ouais, enfin, Jeanne, quoi. La vieille anglaise et le continent, et Eden en sursis. Et l'une des deux anthologistes de Chasseurs de fantasmes, chez Griffe Banque. Voilà, juste à côté...
C'est Michael qui va être content. Hein? Non, okay. L'une des deux anthologistes, l'autre c'est Michael, donc...
Ok, voilà.
Elle a... dans sa bio, il dit qu'il assume la part masculine.
Voilà, on discutera orthographe après, puis concordance. Juste à côté, j'aime bien parce que j'ai juste à côté à chaque fois, Mélanie Fraisse, Serpentine, Notre-Dame aux Écailles, Arlise des Forains, et une nouvelle dans 69. J'ai oublié de dire que Christian a écrit dans Chasseurs de fantasmes. Et juste à côté de moi, pour le coup, Dylan, qui est illustrateur et qui a fait des nouvelles jusqu'ici, et pas encore de romans. Et vous pouvez lire notamment dans l'anthologie Dragon et dans Retour sur l'horizon. Voilà. C'est bien, il y a plein de monde à présenter. Ça fait beaucoup. On va parler évidemment du sexe. On ne va pas vous le cacher. On va parler de la littérature. On va parler de la science-fiction. Et on va s'interroger un petit peu comment l'un se met dans l'autre et vice-versa, comment ça se mélange tout ça. On va essayer de trouver... Hein ? Oui, enfin, bref, on va essayer de trouver un petit peu toutes les positions. Non, mais c'est intéressant parce qu'à la lecture des deux anthologies, ce qui est bien, c'est que ça parle très clairement de cul, pour le coup dans toutes les positions, mais ça parle de plein d'autres choses. Donc on va pouvoir parler de plein d'autres choses. Voilà, si vous voulez une conférence sur le sexe, c'est raté.
C'est pas ça que tu m'avais dit.
C'est ça. Non, peut-être qu'on va commencer par les anthologistes, puisque nous avons deux anthologistes. On va parler des textes. Simplement, alors peut-être d'abord, toi, Jeanne, comment est-ce que tu as sélectionné les textes qui ont été dans l'anthologie Chasseurs de Chimères et de Fantasmes ?
Eh bien, en fait, on a invité des auteurs que nous connaissions, dont nous savions qu'ils étaient capables du meilleur dans le domaine, et que éventuellement ça ne les choquerait pas, la demande en question, en les prévenant que, par ailleurs, ils pouvaient très bien être refusés par le comité de lecture, vu que nous les soumettions au comité en anonyme. Voilà, c'est comme ça que Jean-Claude est passé très à ras, parce qu'au milieu de la déferlante sexuelle des autres, sa nouvelle semblait très très soft. Il a fallu que le comité la relise à tête reposée, si j'ose dire, pour s'apercevoir que finalement, notre cher Jean-Claude n'était pas si sage que ça, et donc était complètement dans les canons que nous leur avions indiqués. À savoir, nous soumettre une nouvelle parlant de cul, où la scène de cul ne serait pas quelque chose de rajouté, un passage obligé pour faire plaisir au lecteur, mais au contraire, le centre de l'histoire. C'est-à-dire que si on coupe la scène de cul, ben, il n'y a plus rien à faire, quoi. L'histoire ne sert plus à rien. Voilà.
Concrètement, est-ce qu'il y a eu des surprises ou des choses auxquelles tu ne t'attendais pas ? Je ne parle pas forcément sexuellement. Hein.
Sexuellement, si. Il y a des concepts intimes de certains de nos, comment dire, collaborateurs qui sont un peu surpris. Mais fondamentalement, littérairement parlant, non. J'ai été étonnée par la qualité de la chose, oui. Ah oui. Voilà. Parce que ça, perso, c'est quelque chose que je ne sais pas du tout faire. Écrire une scène de cul, je veux dire. Je peux tourner autour en tant qu'écrivain longuement, mais foncer dedans, ben non.
Jeanne tourne autour du sexe. Bref, on ne va pas avoir d'image. Charlotte, c'est un peu pareil.
Alors, comment est-ce qu'on a fait, nous, à ActuSF, on est allé voir, en fait, des auteurs qu'on a choisis pour leur sensibilité, parce que leur plume nous intéressait. Et justement, pour voir ce qu'ils pouvaient dire, eux, sur une anthologie érotique. Alors, la démarche était un peu... comment dire ? On n'a pas fait donc, complètement la même chose. On est venu non seulement avec l'idée de l'anthologie érotique dans la tête, mais aussi avec le chiffre 69, mais aussi avec des mots... Enfin, on a donné toute une liste de mots, en fait, pour qu'il n'y ait pas forcément que du cul cru, qu'il puisse aussi y avoir du sentiment, qu'il puisse y avoir d'autres choses, et ou alors des nouvelles bah, comme celle de Stéphane, qui est de Stéphane Beauverger, qui ouvre le recueil, qui est quelque part érotique, et qui, où il y a des traces d'érotisme, notamment parce qu'il y a une femme qui se retrouve sur une plage et dans l'observation des corps presque nus, elle est un érotique, mais très soft, et surtout qui n'est pas du tout SF. Donc, qu'on a choisi de garder justement parce qu'elle était très sensible et qu'elle ouvrait magnifiquement ce recueil. Donc voilà, pour répondre à la question.
Alors, justement, on parle de Stéphane qui est plus sensuel, presque qu'érotique. Mm-hmm. C'est un peu la même question. Est-ce qu'il y a eu des surprises à la réception, à la lecture des textes?
Bah, Francis Berthelot, par exemple, ou Francis, pour ceux qui connaissent ses romans, c'est toujours assez dur. Toujours plutôt triste, et là, il n'a pas du tout, il nous a fait une nouvelle assez drôle, plutôt guirette, un peu, finalement, qui est plus sur le fantasme qu'autre chose, sur la domination, etc. C'est une thématique qui revient, qui revient de temps en temps, quand même, dans toute l'anthologie. Mélanie, je sais que, moi, j'attendais son texte avec impatience aussi, et même Delon, hein, qui nous a fait un texte qui n'est pas trop abscon, hein.
Oui, en fait, c'est assez particulier pour mon texte. Parce qu'en fait, Charlotte a envoyé un émissaire en la personne d'Eric Holstein, donc, qui fait aussi partie d'ActuSF, qui est aussi auteur, hein, qui est venu me voir en me disant « J'ai besoin d'une nouvelle de cul et j'en ai besoin pendant 10 jours. Bon, donc c'est assez sympathique. Je suis arrivé un peu vraiment au dernier moment. Donc très bien, j'ai fait « Ok, très bien, j'ai quelque chose peut-être sous la main. Je peux peut-être répondre à cette question. » Et on est parti plutôt sur quelque chose qui était un dialogue, un moment, un instant qui était vraiment pour tourner autour de la thématique. Charles Vaupert parlait justement du chiffre 69, donc l'année et les thématiques, toujours collé en fait au plus près du titre, vu qu'il me restait peu de temps et il fallait vraiment coller au plus près de la thématique. Et je ne sais pas, peut-être que Mélanie a fait la même chose peut-être.
Bah, disons que moi, ce qui à la fois m'a intéressé et ce qui en même temps m'a posé problème, c'est que Charlotte me l'a demandé en sachant que j'avais déjà un peu écrit sur le sujet. Et j'avais deux nouvelles qui sont dans mon recueil Notre-Dame aux écailles qui ont une tonalité plutôt érotique. Et la question, c'était à la fois comment écrire sur le sujet, d'une part, qui pour moi est une des choses les plus difficiles à écrire de toute façon, quoi qu'il arrive, et comment écrire dessus sans répéter ce que j'ai déjà fait. Et je me suis retrouvée en fait à quelque chose qui m'a surprise moi-même, c'est que de ces trois textes, c'est celui où... qu'on m'a demandé pour une anthologie dont le sujet était le sexe, et finalement c'est le plus soft et le plus en demi-teinte que j'ai écrit des trois, en fait. Peut-être parce que justement, je savais pas du tout comment... Enfin, c'est un sujet, c'est quelque chose que je trouve extrêmement effrayant quand on me demande ce sujet-là, parce que comment est-ce qu'on aborde ça sans... Soit on en fait trop, soit on en fait pas assez. Pour moi, c'est un des sujets les plus difficiles sur lesquels écrire, et sans en plus se répéter d'une fois sur l'autre.
Ça a été compliqué, ça a été long pour toi, faire cette nouvelle?
Celle-ci, j'ai pas mal galéré dessus, en partie à cause de ce que je disais sur ce problème de répétition et à cause d'une question de timing aussi toute bête, c'est qu'on nous a demandé ce texte en hiver et je me suis aperçue que j'ai des saisons dans l'écriture et les textes érotiques, je les écris plutôt au printemps en fait, ou en été. Et en hiver, c'est extrêmement difficile et je pense que ça a beaucoup contaminé la tonalité du texte en fait, quelque part. C'est un texte où moi je sens très clairement en le relisant le passage de l'hiver au printemps. Il y a une espèce d'éveil progressif qui... qui cadrerait bien en fait avec la thématique du texte.
On fera la conférence au printemps, vous allez voir, ce sera. Ce sera encore mieux. Jeanne, tu voulais dire quelque chose?
Je vais passer le micro à Christian. Christian,
oui. C'est quoi la question?
Alors la question, c'est pourquoi est-ce que tu as accepté de participer à l'anthologie? Et est-ce que ça a été difficile à écrire pour toi? Toi, c'est une scène où globalement il y a torture et sexe.
Ouais. Enfin, moi, j'avais jamais écrit de nouvelles franchement érotiques. Donc ça m'intéressait de le faire. Et d'autre part, comme généralement je mets du sexe dans toutes mes œuvres, ça m'intéressait doublement. Donc voilà.
Alors, comment est l'idée de la nouvelle? C'est un personnage principal qui se fait torturer, il y a un petit peu du sexe après, ouais. Il y a une histoire d'extraterrestres et de viande,
c'était je voulais frayer avec les limites quoi, du genre pas faire mièvre, surtout pas faire mièvre et pas faire non plus antisexuel parce que il y a quand même beaucoup de choses, j'ai pas tout lu les textes, mais il y a beaucoup de gens qui culpabilisent un peu quand même, qui tournent autour, sans rentrer dedans vraiment, ou qui n'y vont pas à fond, quoi. Et j'ai essayé de faire justement le contraire de ça, quoi. Voilà.
Ça a été compliqué comme nouvelle, parce qu'en plus il y a des relations extraterrestres, entre un humain et une extraterrestre.
Non, mais les extraterrestres, ils sont arrivés un peu comme ça, quoi. Je cherchais un peu où j'allais et j'ai trouvé des extraterrestres.
Les David Vincent. Ils sont petits. On va poser la même question à Mélanie et à Adeline. Pourquoi est-ce que vous avez accepté de participer à une anthologie où, effectivement, le sujet est compliqué à écrire? L'un ou l'autre. Quelles ont été vos motivations?
Les motivations. C'est assez compliqué, en fait. Déjà parce que le sujet est difficile, a priori. Écrire sur le sexe, déjà, c'est s'exposer. Et d'une... De deux, il faut éviter les choses faciles, en fait. Quand on parle de sexe, il y a certainement des choses qui sont derrière qu'on va essayer de les raconter, qu'on va essayer d'expliquer. Il faut arriver à faire court et il ne faut pas que ça soit... j'explique ce que tu disais tout à l'heure. Il ne faut pas que ça tombe comme un cheveu sur la soupe, en fait. Il ne faut pas se dire, voilà, je vais mettre du sexe maintenant parce que, voilà, on me l'a demandé, ça fait partie du cahier des charges et il faut le mettre maintenant. Il faut arriver... c'est assez long, en fait. Justement, tout à l'heure, je disais que j'avais eu 10 jours pour le faire. Il y a eu 8 jours où je me suis dit, voilà, qu'est-ce que je vais dire dedans, en fait. La motivation, en fait, il y a eu du hasard, parce que j'avais fait aussi une nouvelle, en fait, en collaboration avec le dessinateur Lass, hein, qui a fait un portfolio en fiction. On était partis aussi sur le même thème, mais là, plus en axe de frustration. Du coup, je m'étais dit, voilà, on va plutôt cette fois partir, le sexe étant le centre. On va pas faire sur une personne qui, elle, maîtrise le sexe, va le contrôler et va l'utiliser comme un outil, en fait. Donc, du coup, voilà, c'est parti. On s'est dit, ça va équilibrer. Ça va aussi circonscrire ma matière personnelle, parce que c'est toujours intéressant quand on écrit d'arriver à saisir aussi ce que nous on veut. Donc, quand on écrit, voilà, on dit, voilà, on va essayer, on va parcourir, on va faire un chemin, on va partir d'un point A, on va dire, où se trouve un point B, et on va écrire à partir de là. D'où la motivation d'écrire. L'écrire sur le sexe, c'est une expérience intéressante.
Mélanie, même question.
Ça rejoint tout à fait ce que disait Delon, en fait, mais je dirais que j'ai accepté en partie parce que je savais que j'en étais déjà capable, parce que je l'avais déjà fait. Si jamais on m'avait approché comme ça en me demandant un texte sur le sexe et que je ne l'avais pas déjà fait, je ne sais pas si j'aurais accepté comme ça. La première fois que j'écris un texte à tonalité érotique, en fait, on m'avait simplement demandé pour une anthologie qui ne s'est jamais faite de se fixer un défi. Il faut écrire sur quelque chose, soit un sujet qui nous fait peur, soit quelque chose qu'on a peur d'écrire. Et moi, si j'étais vraiment honnête avec moi-même, c'est quelle est la chose sur laquelle j'ai le plus peur d'écrire, c'est sur ça. Sachant que j'en étais capable ensuite, c'est moins effrayant de recommencer la deuxième fois.
Oui.
C'est la virginité. C'est exactement ça.
On va juste arrêter sur ta nouvelle. Comment est née l'idée? On peut dire simplement qu'il y a un espèce de spectacle avec des automates, des pièces de danse et quelqu'un qui est en train de travailler avec ces automates pour monter ce spectacle-là. Comment se sont mis les choses au fur et à mesure?
Déjà, comme je disais, je ne voulais pas répéter ce que j'avais déjà fait. Et il y avait ce truc où vraiment on était, comme je disais tout à l'heure, tout bêtement, on était en hiver et c'est un moment où il fait froid, il fait gris, on n'est pas très bien dans son corps, je trouve. Et pour moi, en tout cas, c'est pas un moment propice pour écrire réellement sur le sujet de manière épanouie, on va dire. Et je me suis aperçue que je voulais axer peut-être sur un couple ordinaire, un couple humain, et non, j'y arrivais pas. Donc c'est parti sur l'idée, en fait, et si j'essayais d'écrire peut-être sur une femme qui, au départ, c'était qui se crée un amant artificiel, et non, l'idée n'a pas pris non plus. Et c'est resté quand même sur l'idée d'une attirance entre des humains et quelque chose qui n'est pas humain. Ce qui était en même temps, quelque part, le sujet de mes autres textes érotiques aussi. Et ensuite, il y a eu une série de déclics qui étaient essentiellement musicaux, comme souvent, en fait.
Alors justement, musicalement parlant,
musicalement parlant, ça s'est vu parce que des gens l'ont repéré. J'écoutais beaucoup un groupe à ce moment-là qui s'appelle les Dresden Dolls, que certaines personnes connaissent ici, et ils ont un visuel qui est très axé. C'est très Tim Burton, en fait, quelque part dans le visuel. Il y avait effectivement des choses sur les automates, sur tout cet univers très, très visuel, et le fait notamment que mon personnage, quand elle fait ce spectacle, se farde le visage en blanc entièrement, ce qui quelque part la rend semblable à l'automate avec lequel elle danse. Il y a vraiment tout un jeu de miroir comme ça, et c'est venu du visuel de ce groupe, simplement. Tout s'est axé ensuite autour de ça, et la nouvelle est née comme ça.
Je vais te poser la même question, Delon, puisque on va pas trop déflorer l'intrigue, mais pour le coup, c'est une travailleuse du sexe
qui n'y a pas tellement d'intrigue, en fait, non plus. Donc c'est
une espèce d'interview où elle raconte un petit peu.
Oui,
ça.
Oui, tout à fait, en fait. Ça, moi, comme disait Charles Vauper, j'ai tendance à être très elliptique, en fait. Donc en l'occurrence, il s'agit d'un entretien. Donc moi-même, je ne sais pas s'il s'agit d'un journaliste, d'un parlementaire, certainement d'un politique. On devine que c'est important, on devine que ça va avoir un impact, que ça va être diffusé, en fait. Et donc, on a ce journaliste qui va poser des questions. Je vais appeler ça un journaliste. Voilà, un journaliste qui pose des questions et qui essaie de découvrir, voilà, racontez votre histoire, dites qui vous êtes. Et donc, cette travail du sexe, cette machine, qui finalement se retrouve à être beaucoup plus humaine, en fait, que les humains dans lesquels ils vivent. D'ailleurs, l'univers dans lequel se passe, il y a pratiquement plus d'humains, en fait. Les trois quarts des humains sont seuls, ils n'ont plus vraiment de vie sentimentale ou de vie sexuelle. Et donc, ils compensent avec des machines qui remplissent, en fait. Il y a des petites références comme ça, si on parle de personnages non-joueurs à un moment, en fait, sous l'acronyme NPC. C'est des gens qui remplissent, en fait, les rues. C'est plus les gens ont besoin de remplir leur vie. Et donc, on a ces interviews, en fait, où la personne va raconter son histoire, va dire par où elle est passée, qui elle est. Et donc, jusqu'à aller au moment où, en fait, elle va faire comme pas une profession de foi, mais qui va vraiment expliquer ce qu'elle veut. Et c'est finalement ce qui va servir de credo pour toute son espèce, finalement. Donc il va être vraiment, on veut être reconnu en tant qu'être vivant, et on veut vivre, en fait, à côté de vous sans qu'on soit des outils, en fait, à votre sexualité.
On reparlera peut-être après sur la marchandisation et le rapport au réel, mais je voulais qu'on pose des questions à Zariel, qui n'a pas encore parlé, qui est tout sage depuis... Zariel, qu'on a attendu, puisqu'il a été boire une bière à côté. C'était un peu long. Ouais, je dénonce.
Je fais du rock.
C'est ça. Zariel, tu as fait la couverture de Chasseur de fantasmes. Comment est-ce que tu as travaillé? Comment est-ce que visuellement l'idée est née pour créer cette couverture sur une anthologie érotique?
Comment l'idée est née?
Question, hein.
En fait, moi, j'ai une référence de base qui est Pratt, qui a fait pas mal de croquis et travaillé sur l'érotisme pur. Et donc, je suis parti là-dessus. Et comme il travaille vachement, enfin, il travaille principalement avec l'aquarelle, et que moi, j'aime bien faire des tâches, je me suis dit, bon, on va partir sur cette idée-là. Donc, pour formaliser l'érotisme de la femme, pour moi, enfin, malheureusement, je suis un homme.
Et...
Un hétérosexuel, pardon. Excusez-moi. Ouais. Et donc voilà, et après j'ai essayé de jouer sur l'écriture, donc la plume, la tache d'encre, l'encre, la femme, enfin, voilà, la connotation qu'on peut donner aux éléments.
T'as fait beaucoup de croquis, montré, pas montré?
Pas montré, oui, beaucoup. Montré trois, ouais. Dont un, non, j'ai fait quatre, bon, qui n'était pas avec ses professionnels.
Non, mais... le quatre,
c'est oui, c'était un fake. oui, j'ai dû faire une quinzaine de croquis sur la même idole, la femme, et puis voilà, quoi. Dont un qui est dans l'entreprise.
Justement, juste pour savoir, c'était une volonté des anthologistes ou c'est toi qui es parti complètement sur cette idée tout seul ou c'était une volonté plus globale de faire quelque chose au final qui est plutôt doux?
Ouais, je pense que, enfin, moi j'ai pas eu de directive de Grif d'Ancli de Jeanne. Moi, l'érotisme et le sexe, je le conçois plutôt doux, en général, plus sentimental que physique. Donc, voilà. Donc, le côté effrayé de la femme avec juste la plume qui tombe, c'est moi.
Jeanne.
En fait, au départ, il nous a présenté trois croquis qui avaient trois ambiances assez différentes. Mais les trois, effectivement, contenaient une femme et de la plume. Donc, bon.
Deux sur trois.
Deux sur trois. Et la troisième, c'était... Il y avait la tâche, peut-être. Il y avait déjà. Voilà, c'est ça. Et donc, je lui ai dit, tout me plaît, sauf que je voudrais un mix, en fait, de ça. En gros, il y a eu un week-end comme ça d'échange avec des mini-corrections. Mais sur les idées de Zard, déjà dès le départ, j'ai fait que prendre les éléments qu'il me proposait à droite et à gauche et dire voilà, là, ça me plairait bien comme ça, je vois bien comme ça. On avait un souci, c'est que c'est la charte graphique de Griffin qui veut que les entos soient en vert. Et on a tiré un max sur cette charte. Parce que le vert, c'est quand même un peu antisexuel, hein, je ne sais pas. Les deux souchés verts, je ne sais pas si vous avez vu beaucoup. Je dois avoir un souci vert, mais je ne le mets pas souvent, je ne sais pas pourquoi. Bref, il y a que ça, ouais. On attire un maximum sur les couleurs pour la sortir des autres verts des entours. Et tu as beaucoup joué avec ça.
C'était un gros problème. C'est pour ça que j'ai rajouté des nuances rouges. Et jaune pour essayer de contraster avec ce vert. Ce que moi, purement graphique, comme j'ai été élevé, on va dire, le vert pour moi c'est le poison.
C'est le
mal. Donc, pour certains, le sexe c'est le mal, mais c'était assez difficile.
C'est plus compliqué de faire une couverture d'une manteau érotique ou par rapport à une autre couverture ou pas du tout?
Oui, par rapport à d'autres. En fait, moi, comment je travaille? Alors, je lis les textes, j'essaye de les lire complètement. En l'occurrence, c'est pas le cas, mais j'en ai lu trois quand même. Et j'essaye de me baser sur ce que je lis. Après, il y a des textes qui me plaisent forcément plus que d'autres, donc là, j'ai des facilités. Après, moi, la thématique du sexe m'intéressait pas forcément. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis plus dans le côté sentimental et le côté affectif que purement sexuel. Donc, ça a été une difficulté dans le sens où il fallait que je m'y mette, quoi. Comme tout le monde, hein. C'est le cas, en plus. voilà.
Vas-y, Charlotte.
Mais juste une question justement par rapport, parce que je sais pas, bon là on montrera les deux couvertures, les couvertures sont plutôt très différentes alors qu'à la base on avait Grif d'Ancre et ActuSF, le même projet d'anthologie érotique. Donc le packaging, on peut dire ça comme ça, est assez différent. Parce que je voudrais savoir si sur le contenu, parce que nous finalement le contenu est plus érotique. Que Q est peut-être un peu moins pop que ce que la couverture peut laisser présager. Est-ce que dans l'anthologie Chasseur de fantasmes, c'est la même chose ou c'est beaucoup plus cru, alors que finalement la couve est plutôt pour le coup érotique et douce?
J'ai le sentiment surtout que la grosse différence n'est pas tellement au niveau de l'intensité. On avait appelé ça, Manu, quand on était en train de graduer les nouvelles.
Le baiso.
Le baiso tron.
Le baiso tron.
Disons que c'est pas là-dessus, j'ai l'impression, mais je ne fais que feuilleter pour l'instant 69, donc c'est plus un sentiment global que j'ai. J'ai l'impression qu'on est resté beaucoup plus. Déjà, on est beaucoup plus sécessiste, clairement, avec deux gros passages dans le fantastique. mais un fantastique plutôt tiré sur le religieux, le volant, l'ange, tout ça. Et clairement bien ancré dans l'imaginaire, solidement ancré dans l'imaginaire. Je croyais que la nouvelle de Delon était beaucoup moins SF qu'il l'a décrite, par exemple, mais je n'en ai lu que quelques pages sur... Elle était en ligne. Je la croyais beaucoup moins SF que ce qu'il en a dit, mais j'ai vraiment l'impression que la grosse dichotomie est là. Et puis, l'autre souci, c'est que nous avons poussé nos auteurs, souvent. C'est-à-dire qu'une fois que les nouvelles avaient été choisies, dans 5 cas sur les 11, on a dit, il va falloir mettre un peu plus. Il va falloir y aller plus franco.
Alors que justement, nous, on ne voulait pas forcément ça pour l'anthologie. C'est-à-dire que le but de l'anthologie, comme je disais, on n'est pas arrivé en disant il nous faut du cul. Il nous faut ces 69. Faites selon votre sensibilité. Certains préféreront l'érotisme et le fantastique. Charlotte Bousquet, qui est avec nous, elle a choisi exactement ça, c'est-à-dire la sensualité est dans le fantastique, un fantastique très 19e, mais l'année aussi est dans la tonalité fantastique. Après, il y a des textes plus clairement SF, comme le texte de fin de Joël Vintrebert, qui est, voilà, ça se passe sur une autre planète. Il y a des scènes d'amour avec des caméléons qui sont des papillons géants, et qui sont d'un. Alors, pour le coup, qui est une nouvelle extrêmement érotique. Il n'y a pas que ça, c'est-à-dire qu'à la fin, ça ouvre sur autre chose. Mais de fait, pour répondre, donc, et sur la SF, il n'y a pas que de la science-fiction pure et dure, c'est sûr. Il y a donc, je disais, du fantastique, et effectivement, par exemple, la nouvelle de Delon, où il y a un fond, et il y a cette espèce de femme qui est là, mais finalement, elle peut parler au nom d'autres, parce que c'est ni plus ni moins qu'une prostituée d'aujourd'hui. Il y a aussi la nouvelle de Sylvie Lenné où finalement c'est de ce qu'on vend demain. Le propos SF, c'est parce que c'est de l'orgasme en capsule, mais qui en profite pour expliquer ou pour essayer de découvrir ce qu'est le mystère des relations humaines et le mystère s'il y a de la rencontre entre deux êtres. Tout ça pour aller je ne sais plus où, parce que je me perds souvent en route dans mes méandres. Non, voilà, exactement, on n'a pas poussé vers le cul, on a vraiment clairement fait le choix d'aller voir des gens et de faire par rapport à leur propre sensibilité, ce qu'eux avaient à dire sur ce sujet-là, plutôt que de dire, rajoute-moi, c'était pas vraiment le propos, enfin, c'était pas ce qu'on voulait donner. Et c'est pour ça, effectivement, que je pense qu'elles sont clairement différentes, voire complémentaires, sur le fond et sur la forme, j'ai l'impression qu'elles n'empruntent pas les mêmes chemins, en fait, finalement.
Il y a quand même un truc de fond, effectivement, qui est différent. C'est que mon sentiment, c'est que le cul n'est pas enseigné. C'est qu'on vous balance, ça à la gueule en quatrième, d'un ton froid, et puis vous vous démerdez ensuite. Et personne ne vous dit jamais, en fait, que c'est comme le bon vin, ça s'apprend doucement. Et puis des fois, ça passe pas. Ça ne rentrera jamais. Et qu'il faut apprendre ça. Et chaque fois dans la littérature, j'ai trouvé ça décevant, personnellement. Et je suis persuadée, je suis convaincue de la portée pédagogique de la science-fiction. Voilà. Et je pense que là, le cul, c'est un des endroits où elle n'a pas été pédago, qu'elle a soigneusement évité. Et c'est une des raisons de la naissance de Chasseur de Fontaine. C'est ce qui fait qu'effectivement, notre démarche est totalement différente. J'avais commencé... ma postface par une citation de Michaud qui reflète totalement mon sentiment là-dessus, c'est-à-dire l'éducation des frissons est très mal faite dans ce pays. Voilà.
Enfin, je rassure, dans 69, ça se pénètre quand même. Enfin, simplement, on discutait un petit peu avec Delon tout à l'heure, et on se disait que, quand même, une majorité de nouvelles, en fait, le sexe n'était presque. Que les nouvelles disaient autre chose, que le sexe était presque un prétexte pour aller vers d'autres thématiques. Est-ce que vous avez le sentiment pareil en vous deux, les deux anthologistes, puis on posera un petit peu la question aux auteurs derrière.
Bon, Moi, j'ai le sentiment que le propos des auteurs de Lanto, c'est l'épanouissement de l'individu dans sa vie sexuelle. Alors maintenant, de temps en temps, ils en profitent pour se reproduire, pour tomber amoureux, pour se manger, pour avoir de grosses déceptions sur l'humanité en général. Mais franchement, leur problème, c'est au moment où ils se retrouvent à l'horizontale, est-ce que ça pourrait, s'il vous plaît, être agréable ? Voilà. Ça, c'est le fond, à mon avis, des auteurs qui ont intervenu dans Chasseurs de fantasmes. Heyerdahl disait d'ailleurs que la nouvelle, qui d'ailleurs entame Chasseurs de fantasmes, était le récit de sa première fois. Il a eu du bol quand même, Heyerdahl, hein, ça se passe super bien, je trouve. Mais bon, c'est clairement ça. C'est qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? Comment on va le vivre pendant les 80 années que nous a alloué Dieu sait quoi sur la Terre. Voilà.
Donc si ça parle d'autre chose, oui, derrière tous les textes, je pense que, pour reprendre l'exemple de la nouvelle de Stéphane, où l'érotisme vient des corps qu'il peut voir sur la plage, il y a autre chose derrière que je ne dévoilerai pas pour ne pas non plus déforer l'intrigue. Par exemple, sur, par contre, des nouvelles clairement que sur le désir et la sexualité, c'est la nouvelle de Francis Berthelot qui est clairement que sur ça. C'est un jeune garçon qui va dans un cinéma où on peut influer sur le développement du film à base de points. Enfin bref, je vais pas vous faire toute la nouvelle. Et lui, c'est clairement pour arriver à faire cadrer le film avec ses propres fantasmes et en faire un péplum érotique au gay, quoi. Donc du coup, il y a des nouvelles qui sont comme ça, mais dans d'autres, la nouvelle de Joël aussi, c'est l'acte d'amour est une porte pour aller vers un ailleurs, pour autre chose, etc. Dans la nouvelle de Virginie Bétrugé, où pour le coup, c'est assez cul aussi, puisque c'est des premières fois, des premières fois ratées, finalement, ça parle peut-être plus des amours ratés que quelque chose de cul, et au final c'est une façon de se souvenir avant de mourir de ce qui a vraiment compté dans l'existence. Il n'y a pas beaucoup de choses qui comptent au final, et pour tenir éveillé quelqu'un, on dit regarde toutes mes premières fois, mais c'était nul, moi c'était comme ci et comme ça. Donc voilà, donc je pense que derrière, à chaque fois, il y a quand même d'autres choses qui peuvent être qui sont soulevées. Et là, je vais laisser Mélanie et Delane répondre.
Christian, répondra.
Est-ce qu'il y a autre chose dans ton texte que il y a un fond, il y a tout ça ?
Bah, j'ai essayé de mettre un peu de fond quand même, ouais, mais un fond à base de cul, hein, parce que c'était la.
Un fond à base de chien.
Parce que c'était l'axe obligatoire, on va dire. Et.
Une finalité amoureuse
au-delà
du sexe.
Oui, j'ai essayé de jouer le jeu à fond de l'érotisme et pas simplement de la pornographie. Quoi. Parce que c'est un peu ça le problème quand même quand on parle d'érotisme. Où s'arrête l'érotisme, où commence la pornographie? Est-ce qu'on peut garder de la pornographie dans l'érotisme? Est-ce qu'on peut l'éviter? Est-ce qu'on peut l'éviter aussi?
Peut-on éviter la métaphore?
Ouais,
il y a ça aussi.
Il y a ça aussi, ouais. Mais le personnage, là, il faut qu'il arrive à la plénitude de l'acte, on va dire, pour comprendre ce qui se passe.
D'accord. Peut-être la même question à Mélanie et à Julien. Qu'est-ce que vous aviez envie de mettre derrière ces scènes, cet érotisme matin de renouvelle ?
C'est un peu difficile d'y répondre parce que les textes souvent se construisent pas autour de justement le thème « qu'est-ce que j'ai envie de dire ?» mais il y a des images, des choses qui vont se préciser. Comme je disais tout à l'heure, dans ma nouvelle, ce parallélisme entre cette femme qui se farde le visage pendant son spectacle et cet automate qu'elle a en face, il y a énormément de choses qui sont apparues à l'écriture. Mais je dirais que pour moi, c'est pas un texte qui parle de sexe, parce qu'il y en a vraiment très peu, c'est peut-être plus sur le désir. Ça parle aussi de solitude, ça parle d'un lien qui se crée dans une situation un petit peu désespérée. Enfin, c'est des choses comme ça qui sont apparues après coup. Mais je ne peux pas dire que j'ai réellement eu une intention autre que comment je fais pour ne pas être hors sujet, étant donné que je n'ai pas envie d'un texte super explicite et je n'ai pas envie réellement de parler de sexe. Ça parle plus de désir, je pense.
J'aimerais rebondir en fait sur ce que disait Christian à propos de la pornographie, justement. Je trouve qu'en fait, la peur qu'on a finalement de la pornographie nous empêche finalement de la prendre de face. Sans vouloir faire de mauvais jeux de mots. Non, en fait, ce qui est intéressant finalement avec aujourd'hui la pornographie, c'est qu'on en parle toujours. Je suis sujet à ce problème-là, c'est qu'on en parle en rigolant, c'est un sujet un peu léger. On fait voilà, vous avez vu tel truc, vous avez vu ça. Ah non, j'ai pas vu, etc. On est toujours dans un rapport. On va en parler, en même temps, on reste très distant. On dit qu'il n'y a plus de tabou, et en même temps, on évite d'y aller. Franchement, en parlant. Alors finalement, en se disant voilà, on va prendre la pornographie, on va écrire ce qui se passe, on va montrer ce qui se passe. Finalement, la pornographie, ça, on représente quelque chose, on le montre, j'ai failli dire on le dessine, mais c'est presque ça finalement. C'est un peu, on pourrait pratiquement le rapprocher du gore pour dire voilà, on va montrer vraiment ce qui se passe. Et finalement, à force de dire voilà, on y va, on prend un bras le corps et on le montre, du coup, on arrive pratiquement à s'en libérer en fait. C'est, on arrive finalement à dire bon, bah, on n'a qu'à le mettre et on arrive à l'épurer. Il n'y a plus ce côté choquant en fait. C'est plus quelque chose de gratuit, on s'en libère, enfin, que ce soit l'auteur ou même le lecteur, il arrive un moment où on est libéré de la pornographie et on peut en parler, on peut le montrer, et finalement ça perd son côté choquant, et finalement le sens peut-être est plus clair en fait, le message est peut-être plus clair une fois qu'on le montre directement.
Est-ce que quelqu'un peut réagir à ça? Jeanne, je sens que tu vas réagir.
Moi, le problème que j'avais avec les textes érotiques jusque-là, c'était le syndrome Zimmer-Bradley. Si vous voyez de quoi je parle, non ? Zimmer Bradley a écrit un pas mauvais cycle de science-fiction qui s'appelle Ténébreuse, et dans laquelle les télépathes, à un moment donné, toujours dans le roman, finissent par coucher ensemble, plus ou moins à trois, parce que là, le plan à trois bien vite les. Hein, et au moment où il passe à l'acte, elle plonge immédiatement, si j'ose dire, dans une métaphore à la con. Brûlante, humide, les arbres tournent, les dieux se penchent, observent les événements. Ils ne peuvent pas baiser tranquille, ces gens-là. C'est pas possible. C'est juste pas possible. Et là, ce que je me dis, c'est quand une idiote dans mon genre, quand j'avais 14 ans, hein, voilà, c'est une idiote pucelle, tombe là-dessus et qu'elle s'imagine que la vraie vie, c'est ça, oh putain, la déception. Quand Nanar l'embrasse, il ne la soulève pas de terre. Les dieux ne sont pas convoqués. Hein, ils ne tiennent pas la chandelle. C'est un des problèmes que j'avais avec les textes érotiques. C'était très souvent ça, dans l'ASF en tout cas. On avait cet érotico-mystico-soft sous l'œil de Dieu. La déesse mère. Qu'est-ce qu'elle a bon dos, la déesse mère ? Les gens font des trucs quand elle est là pour accorder la permission de le faire, c'est hallucinant. Très souvent, ça, c'est dans la fantaisie. C'est les deux amoureux en profitent bassement de sa main ou de je ne sais pas quelle cérémonie vaguement druidique pour enfin passer à l'acte, alors que ça fait 200 pages qu'ils se regardent avec les yeux morts et qu'on sait qu'à un moment donné, oups, il y en a un qui va glisser. Ben non, il faut attendre sa main. Ça m'agace. Donc j'avais envie qu'on passe avec des gens matures, raisonnables, majeurs, consentants, qui baisaient en sachant ce qu'ils faisaient et qui nous montraient sans honte, sans farce, sans métaphore. Et c'est pour ça aussi qu'on a un peu poussé les auteurs, certains auteurs, pas tous, Christian, il n'y avait aucun besoin de le pousser. Il était déjà là où il fallait. Dans le pornotron, il est arrivé à 10. Sachant qu'on avait un zéro et que ça finissait à 10. Donc, voilà. Mais certains ont eu beaucoup plus de difficultés à atteindre un niveau, on va dire, moyen. Cela dit, on n'y tenait pas tant que ça. Parce que, par exemple, la nouvelle de Jean-Claude ou celle de Jean-Michel Calvez ne sont pas très visuelles, finalement. On sait qu'ils baisent, il y a intromission, aucun problème, mais c'est pas leur souci principal. Leur souci principal, c'est le bien-être, l'extase du partenaire, la réception qu'il en a. Pour Jean-Claude, c'est moins ça quand même. Je pensais surtout à Jean-Michel Calvez là. où il est en fait, pour donner une idée à ceux qui n'ont pas jeté un œil à cette nouvelle, ce sont ça s'appelle éphémère, la nouvelle de Jean-Michel, et ce sont des gens qui se jettent du plus haut d'une falaise et qui font l'amour en descendant, en planant. Je ne vous dis pas à la fin. Plus dur sera la chute, n'est-ce pas ? Mais non, ça ne finit pas comme ça. Enfin, si, ça veut dire non. Bref, tout en volant, ils font l'amour et ils ne se connaissent pas avant. Et pourtant, tout le moment de la chute est un moment d'intense connaissance de l'autre. Là, on n'est pas du tout dans le porno tel qu'on peut le concevoir. Et pourtant, il n'y a pas l'ombre d'une métaphore réelle quand il s'agit des scènes de cul, on va dire, dans le texte de Jean-Michel. Toute la métaphore est autour. Et c'est très beau.
Charlotte, vous voulez réagir ?
Non, mais autour de la SF, le désamour, enfin de ce qu'on semble dire, le désamour de la SF vis-à-vis de la sexualité, notamment de ses personnages. J'ai l'impression que c'est un peu ça. Alors, il y a bien sûr des auteurs qui ont des auteurs, et là, Jérôme, tu connais autant que moi, comme Farmer, qui ont livré des ouvrages, mais ils sont clairement pornographiques, de type Gare la Bête, etc. Les Amants étrangers, qui lui a été, si je ne m'abuse, censuré, alors que pour le coup, il n'est absolument pas érotique, ni rien. C'était uniquement parce que le personnage principal tombe amoureux d'une extraterrestre dont la seule différence, parce qu'elle est complètement humanoïde, la seule différence étant son système reproducteur, où en fait elle photographie son partenaire et elle a un enfant de lui, et ça a énormément choqué à l'époque l'Amérique puritaine. Mais ouais. Ah, bah, j'ai lu il y a.
L'alcool a un effet.
Inhibiteur.
Je te le rends. L'alcool a un effet inhibiteur sur son système reproducteur. Et elle ne tient pas du tout, en fait, à se reproduire, parce que lorsque elle sera enceinte, ses enfants la boufferont après. C'est sympa, hein, de l'intérieur. Bon, le grand truc choquant dans Les Amants étrangers, c'est que d'abord, effectivement, c'est un amour entre un terrien et un extraterrestre. Et si je ne m'abuse, en plus, il est curé, le héros, vaguement. Hein ?
Donc, il doit être envoyé, il est surveillé par les
curés. Il y a un truc religieux derrière, en tout cas. Et on est complètement hors de l'image de Dieu. Enfin bon, c'est. Mais il n'y a pas une scène de cul dans Les Amants étrangers. Il doit l'embrasser une fois ou deux. On se doute qu'ils font plus d'affinité, mais. C'est vraiment super soft.
Ça, c'est la littérature non érotique qui camoufle le cul derrière autre chose. Et que tout à l'heure, il était question de littérature érotique qui camouflait autre chose derrière le cul. C'est carrément une inversion.
Ben voilà, en fait, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on voulait faire. On voulait faire une inversion. Non, mais 69. En 69. Non mais voilà, la SF, c'est à mon, enfin, il me semble ne s'est pas beaucoup intéressé à la chose. Il y avait eu deux anthologies dirigées par Ligny, voilà, Cosmique Erotica, voilà, dont l'une était composée entièrement de femmes et l'autre entièrement de textes d'hommes. Mais mis à part ça, c'est vrai que c'est pas une thématique qui est beaucoup abordée. Alors si vous avez, enfin. Pourquoi est-ce que c'est la SF qui est justement frileuse par rapport à ça ? Est-ce que c'est parce que longtemps il y a eu beaucoup plus d'hommes dans la SF en parlant des héros et que.
C'est une question reste.
L'influence des hommes dans la SF, elle était. Parce que les femmes auteurs, il y en a toujours eu, mais il y a quand même une énorme majorité d'hommes. Il y a aussi un énorme lectorat masculin à la base. Ça a changé, mais. À la base, c'est un lectorat masculin.
Plus encore le lectorat, effectivement, que les auteurs. Parce que les auteurs féminins, il y en a une flopée dès la naissance de la SF.
Oui, mais elles sont minoritaires quand même, largement. À mon avis, il y en a plus maintenant qu'il y en avait.
Et maintenant, elles sont majoritaires. En écrivain. Enfin,
moi, je me rappelle, déjà, rien qu'en France, dans les années 70, si tu voulais une femme dans une anto, à part Joël... Hein, il n'y avait pas grand monde. Hein. Il y avait Joël, Cathy Alexandre.
Alors là, on parle d'institution française, pas de la SF. Pour moi, la SF, c'est d'abord américaine.
Oui, donc, d'accord.
Je parle d'institution américaine.
Ah non, on ne va pas faire des pas. Est-ce que la SF est d'abord américaine ou française? C'est érotique, non?
Pour l'érotisme, les Américains, depuis Farmer, excuse-moi, ils sont allés beaucoup plus vite que les Français.
Ah, c'est-à-dire que c'est les Français qui seraient timorés. En même temps, par exemple, vous parlez de Joël. Joël Vintrebert, alors j'ai pas lu les bouquins en question, je crois que Mélanie, tu connais un peu mieux que moi, a justement fait pas mal d'essais sur l'érotisme en SF notamment.
J'ai pas forcément les bouquins en tête que j'ai lu il y a un moment, mais c'est vrai qu'on parle d'érotisme et science-fiction, je pense à Joël tout de suite, mais pas tellement sur quelque chose de forcément extrêmement érotique, mais c'est ben, notamment sa nouvelle là-dedans, ça fait partie des choses les plus sensuelles que j'ai lues par contre.
Toi, tu veux compléter? La question de du cul chez Joël se pose en permanence, mais elle n'est pas forcément montrée. Dans Chronoville, par exemple, il est question effectivement d'une femme de plaisir, c'est-à-dire d'une pute. Hein. Elle est peinte en jaune, enfin bon. Dans Chromoville, donc, c'est une femme de plaisir et elle rend à demi fou le héros de l'histoire avec ses talons. Mais c'est tout l'érotisme est autour, dans le décor, dans les relations avec les personnages, mais pas dans l'acte lui-même qui n'est très rarement montré. Sauf peut-être dans Pollen, il y a des scènes lesbiennes très claires. Et dans Le Créateur chimérique, oui, effectivement aussi. Mais c'est pas. C'est surtout Pollen.
C'est relativement récent à ce moment-là, si je me souviens bien. Enfin, relativement, il a
commencé. Bah, Le Créateur chimérique est ancien, hein.
Alors, simplement, juste pour terminer le débat, puis on va passer aux questions. Qu'est-ce que la SF a apporté à l'érotisme? Qu'est-ce que l'élément science-fictionnel et fantastique a apporté de plus aux nouvelles par rapport à des nouvelles érotiques classiques? La question n'est pas simple et on n'avait pas prévu.
Rien. Rien, c'est de la littérature. Ça apporte ce que la littérature doit apporter à l'érotisme, de mon point de vue.
Matériel.
Après ce que tu disais tout à l'heure, c'était peut-être plus pour éduquer un lectorat. Qui serait plus attiré par...
Je pense effectivement que la SF a une fonction pédagogique en général, mais comme la littérature a une fonction pédagogique. Il se trouve que dans la SF, c'est beaucoup plus net, parce qu'on joue avec des concepts, notamment scientifiques, qu'on apprend en genre. Il y a une grande partie de ce que je sais en astrophysique, je l'ai appris en lisant des bouquins de la SF. Voilà. Tout mon problème étant que... Où est-ce qu'il est dans le vrai, là, Jojo, et où est-ce qu'il délire, hein? La théorie de la supercorde, des supercordes, jusque-là, je suis, et après, ça veut dire quoi, cette équation? Voilà. Est-ce que c'est pas pour faire joli? Ça, c'est tout mon problème. Mais c'est parce que je suis une littéraire convaincue et que j'ai eu 0,5 au bac, hein, en maths. Donc, ne sortez pas une équation.
C'est pas les maths sont...
Non, Georges, stop. On a déjà eu ce débat.
Bon, sinon... bon, la science-fiction, c'est toujours l'œil du microscope sur un sujet que traite la littérature générale. Donc, effectivement, il y a un problème de littérature générale, mais la science-fiction fixe davantage le cadre.
Allez, avant de voir, on va juste passer aux questions du public, parce que je sais pas vous, mais moi j'ai soif. Et puis après, il y a une petite séance de dédicace. Est-ce que quelqu'un a une question à poser aux gens qui sont autour de cette table ou qui sont dans le public, puisque Charlotte est dans le public? Vas-y, Manu.
Donc c'est une question aux anthologistes, en fait. Est-ce que vous avez eu beaucoup de difficultés à trouver le titre de l'antho? Et autre question, comment vous avez organisé le sommaire? Parce que dans Chasseur de fantasmes, celle, la nouvelle d'Ayardal est assez calme, et celle de l'Anthos finit par celle de Christian, qui est plutôt trash. Donc il y a une sorte de progression. Enfin, est-ce que ça s'est fait naturellement? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de débats, etc.
Alors, Pour 69, ça a été finalement assez rapide, hein, puisque Eric, Jérôme et moi, on était plutôt d'accord. Voilà. Ouais, 69, ouais, ça le fait. Ok, 69. On a quand même sous-titré SFQ. Voilà. Pour se marrer, mais on l'a pas mis sur la cour, on l'a mis juste sur la tranche. Donc voilà. Et par contre, ça a été, donc ça, ça a été assez rapide. Par contre, ça a été une autre paire de manches pour les 12 textes, pour les organiser. Et là, je l'ai fait avec Jérôme Lavadou, qui co-signe la préface avec moi, où ça a été, bah, comme je disais, ça a été 12 sensibilités. On a demandé à, donc, à 12 auteurs, 12 sensibilités différentes, avec finalement plusieurs pistes qu'ils ont choisi de suivre ou pas. Donc il fallait que c'est une certaine logique. Et en fait, on s'est bien, bien amusé. Je pense qu'on a fait tous les montages possibles, imaginons. Le premier, ouais, on sait. Non, parce qu'en fait, il fallait quand même. Enfin, le premier texte, le texte d'ouverture et le texte de fin ont été très faciles à placer. C'est-à-dire que ça sonnait comme une évidence. Il fallait qu'ensuite, à l'intérieur, ce soit logique, qu'il y ait des thèmes. Et comme on disait tout à l'heure, on a aussi bien de la SF que du fantastique. Que il y a tellement de choses qui sont abordées qu'il fallait trouver des liens entre tous les textes pour qu'on soit pas, que la lecture soit fluide et que ça tombe pas de manière abrupte, qu'on passe d'un sujet à un autre comme ça sans prévenir. Et je pense que vraiment, Jérôme et moi, on a fait, il me semble, du beau boulot, parce qu'on a réussi à trouver des thématiques communes dans les textes. On les a décortiquées aussi pour ça. Et on a essayé, en tout cas, de faire une longue montée avant de redescendre un peu. Et je suppose un peu comme... voilà. Et de suivre une espèce de courbe. Voilà. C'est exactement ça. Et de finir sur une note plutôt, de toute manière, positive. De commencer en plus sur quelque chose... Nous, ça commence sur quelque chose assez sombre. Et finalement, c'est complètement ouvert à l'avenir, en fait.
Un peu pareil, le premier texte, le dernier texte se sont imposés tout de suite. Ça n'a pas été. Il n'y a eu aucun problème. Après, ça a été de doser le rythme. Quoi. Parce qu'il faut des phases paliers, n'est-ce pas? Il y a un moment où on doit se reposer, souffler un peu. Pour finir dans le feu d'artifice final de Christian. C'est-à-dire que si vous avez survécu jusque-là, ben, vous tiendrez aussi la nouvelle de Christian. Voilà, ça c'était le... Mais ça ne nous a pas pris énormément de temps, finalement. Le plus long, ça a été de nommer l'anto. On a dû passer 3 ou 4 heures un soir à brainstormer. Mais on avait déjà... Ce qui était clair, c'est qu'on avait déjà le sommaire fixé. Et c'est à partir de là qu'on s'est mis à chercher. Et puis finalement, il y avait... ça a été très très bête, hein, comme... Il y avait Retour sur l'horizon qui était en train de se construire, qui était au bord de sortir, et on commence à parler de Serge, et on dit, Chasseur de chimères, c'était quand même super beau. Hein. Et puis, alors Chasseur de fantasmes, allez, ça sera super bien aussi. c'est Mickaël, hein, qui a trouvé Chasseur de fantasmes.
Est-ce que quelqu'un a une autre question avant? On n'aura jamais l'apéro.
C'est une question qui s'adresse pas pour qu'il y en ait quelqu'un, c'est qui voudra répondre. C'est sur les relations que vous voyez entre le sexe et la souffrance. Parce que j'ai pas lu encore les textes de Chasseurs de fantasmes, mais dans ce 69, il y a pas mal de liens entre le sexe et la souffrance, et qui sont assez récurrents, souffrance physique ou souffrance mentale. Et je voulais avoir votre sentiment là-dessus.
Alors, qui veut répondre? Le sexe, ça fait mal.
Ben oui, si c'est mal utilisé, c'est tout le problème. Forcément, ça fait forcément mal si c'est mal utilisé. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses, Christian? Au fait, justement.
Il peut y avoir du bien à se faire du mal, on va dire. Aussi.
Là où il y a de la chaîne, il y a du plaisir.
Enfin, bon, je ne suis pas spécialement partisan de ça, mais je pense que pour c'est une partie de l'érotisme, quand même, le SM, ou les jeux de domination, de soumission, etc. Quoi. C'est quand même... toujours plus ou moins présent, je crois, dans les rapports. Ça peut être très bien admis et sans douleur. Hein.
J'allais dire un truc, c'est en train de me faire penser. En fait, je me rappelle la jeunesse du texte, c'est le moment où j'ai présenté à Charlotte et qu'on en a parlé pour le retravailler. Et je me suis aperçue que moi, c'était un texte où il y a une certaine souffrance, je dirais, morale. Mais Charlotte m'a fait remarquer qu'il y avait un peu une imagerie qui était forcément SM, mais il y avait l'image d'un automatique qu'on dresse avec un fouet. Il y avait des textes comme ça des petits détails comme ça qui parsemaient le texte et que j'avais pas vu du tout. Est-ce que finalement c'est pas quelque chose qui est ressorti dans certains textes malgré nous en fait? Parce que ça je l'avais absolument pas vu avant que tu me fasses remarquer.
Mais je pense que plus que la souffrance en tant que telle. Alors on pourrait dire que le désir c'est déjà de la souffrance puisque quand on est dans une attente etc avant que ce soit résolu mais c'est plus enfin il y a peut-être des thématiques de souffrance mais elles sont aussi dans avec d'autres, c'est-à-dire que quand on parle du effectivement de résumer le cul pour le cul, c'est pas complètement ça, il y a d'autres thématiques qui se dégagent, il y a effectivement ce qui peut être du sadomasochisme, il y a la domination, il y a le mystère, il y a tellement de choses. Il y a le regard de l'autre, le texte de Maya Mazoret, par exemple, c'est sur le regard de l'autre, sur la complicité qu'on peut avoir avec l'autre ou pas. Il y a beaucoup de choses et ça brasse tellement, finalement, que les textes sont peut-être pas tous drôles, sauf par exemple le texte de Gudule, qui est un espèce d'énorme éclat de rire, finalement, qui est assez truculent et qui est peut-être le seul à être comme ça, un peu peut-être ce côté un peu pochate, quoi. Mais sinon, ça balaye tellement, enfin, l'érotisme balaye tellement de spectres qu'à mon avis, ça n'en est que un des biais.
Derrière dessus, je voudrais.
En train de balayer les spectres. Ça, super beau.
Je voudrais rajouter en fait sur la question en fait. Au-delà de ça, la thématique de la souffrance est intéressante dans le sens où en fait, on établit une tension. C'est-à-dire, le sexe est plutôt quelque chose où on y va de manière plus positive. On est plutôt content de trouver un texte. Ça parle de sexe, c'est très bien. Et alors cette souffrance dedans, ça crée une tension. En fait, c'est un petit ressort dramatique. Ça permet de faire avancer l'histoire, d'avoir soit quelque chose à résoudre, soit on va essayer de pousser le thème vers quelque chose, mais à chaque fois on va essayer d'avoir ces deux points distincts. On a le plaisir et de l'autre côté on va avoir la souffrance, on va essayer d'avoir ce petit mécanique pour le texte.
Mais n'est-ce pas un problème général de la littérature? Sans souffrance, il n'y a pas de littérature.
Les gens heureux n'ont pas d'histoire. Bis repetita placent.
Est-ce que il y a encore une petite question à la salle? Oui.
Moi, ma question en fait est à Zariel. Quand je vois les deux couvertures, il y en a d'un côté une femme très féline avec des ongles qui griffent, très fin fatale et tout ça, et de l'autre côté la couverture de Chasseur des fantasmes qui est avec une femme, moi, je ne l'ai pas eu trop sous les yeux, mais qui me semble avec un peu plus de rondeur, un peu plus. Merci Charlotte. Un peu plus, on va dire, un peu plus naturel, en fait. Et ouais, elle a quand même de bonnes joues, quoi. Et puis, elle a un petit pli au ventre, là, enfin, bref. Et,
c'est une femme normale.
Oui, voilà, c'est une femme normale. Et justement, vu ce que disait Jeanne tout à l'heure au niveau du fait que les nouvelles sont là aussi pour éduquer, est-ce que c'est le choix vient de toi, de faire une femme normale, ou est-ce que c'est un choix dans les discussions qui est apparu à ce moment-là?
Bah oui, ça vient de moi, je pense, parce que j'ai pas eu trop de directives de Draco, en fait, hein, du tout. À part. Après, je pense que je connais pas du tout.
On avait pas demandé quelque chose dans le
ce qui est totalement passé à l'oubliette.
C'est passé à la trappe, mais alors, puisqu'elle avait des seins, donc. Androgyne, c'était mal barré, quand même.
Bah, je pense que ça dépend surtout de. Je sais pas comment vous avez sélectionné, vous, ActuSF, là. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais ça dépend de la sensibilité de l'illustrateur, je pense aussi. Est-ce qu'il préfère les femmes qui savent ce qu'elles veulent ou... Voilà, enfin, ça dépend. Mais moi, je ne saurais pas dire d'où ça vient exactement, mais moi, j'aime les femmes douces et pas forcément me prendre la tête. Donc, j'ai pas envie d'aller voir une nana qui me regarde comme ça et qui fume sa clope, ça me fait peur.
Petite nature.
Est-ce qu'il y a d'autres questions avant l'apéro?
Juste une remarque.
Oui.
Courte, c'est pas une question, c'est qu'il faut rappeler qu'il y a une troisième anthologie hérétique de SF qui vient de sortir sur le net, c'est celle de Félix Webb.
Exactement. Une question, une fois, deux fois, trois fois. Alors, on fait l'apéro, et si vous avez envie de ah, il y a une question là-bas. Non,
mais,
si vous avez envie de dédicacer, les auteurs sont là dans les tabernes. Et on remercie le motif pour nous avoir prêté la salle ce soir. Merci à tous.